Salut à toi, camarade. Cette émission censurée avec le Dave derrière le micral, à la jactance et le mat, derrière les potards, à la technique. On est en différé, comme d'hab, tout le long de cette 7e saison, à l'antenne d'RCN, Radio Caraïbes Nancy, 90.7 sur les ondes, point. J'ai dû dire un ouais trop, point. RCN-radio.org sur la toile. Et ce soir, chers auditeurs, chères auditeuses, en ce 911e jour d'occupation Hollande au Val-Saumet des Fiennes, en cette année qui commémore l'anniversaire séculaire de la grande boucherie, abat toutes les armées, abat toutes les guerres, vive la désertion, et ça démarre comme ça! Bienvenue et merci d'être à l'écoute d'émissions censurées et d'RCN, comme d'habitude les amis. C'est un vrai plaisir de vous retrouver à l'antenne. Alors je vous ai prévenu, je vous prends pas en traître pour cette semaine, pour cette heure qu'on va passer ensemble. On a fait dans le léger, dans l'amour, la semaine dernière, pour pouvoir peut-être faire dans le gros lourd qui tâche, parce que le sang, c'est vrai que ça tâche, le gros lourd, cette heure qui vient. Donc, bienvenue, ça je vous ai souhaité. On va commencer par présenter, c'est bien de commencer par un morceau plutôt rigolo, parce que comme disait Coluche, si on peut pas déconner des choses sérieuses, il va pas nous rester grand chose pour rigoler. Alors, on vient de commencer par un doublon ludwigien, signé donc Ludwig von 88. La première partie du morceau s'appelle « Si jamais les oiseaux », trois petits points, suivi de Monsieur Pif Paf. Voilà, ce qui est une première dans l'émission censurée. Au bout de 211 émissions, j'ai toujours toujours des nouveautés, enfin du moins des exclusivités, ou alors du moins des choses que je vous ai jamais passées encore, et je crois que c'est pas fini. Donc, ces deux morceaux sont issus du deuxième album des Ludwig, qui s'appelle Oulala 2, La Mission, évidemment sorti en 87 chez Bondage Productions, le tout distribué par Densteria, à l'époque en vinyle. Voilà, en ce qui concerne le thème de ce soir, les amis, donc on va faire dans le gros lourd, à bas l'armée, à bas la guerre, c'est le cinquième épisode du genre, on est le 12 novembre aujourd'hui, forcément, on pouvait pas passer à côté d'une telle commémoration. Ça sera pas la plus stupide des commémorations de la Grande Guerre, hein, parce que à Nancy, en l'occurrence, là je m'adresse aux Nancéens parmi vous, faire un jardin éphémère sur la place Stanislas avec des jolies fleurs, tout ça qui suggère le chaos, les trous d'obus, j'ai trouvé ça très joli à voir, mais dès qu'on commence à gratter un peu, on voit à quel point tout ça est insipide, et c'est peut-être pas insipide pour rien. Parce qu'on nous dit rien, on nous cache tout. Et cette guerre qu'on a appelée la Première Guerre mondiale, la Première GM, qu'on a même surnommée la Grande Guerre, comme je vous le dis souvent, comme si une guerre pouvait être grande, alors on va l'appeler la Première GB, la Première Grande Boucherie, parce que cette guerre, oui, elle a été grande par le massacre des soldats qui a rapporté énormément de pognon aux industriels qui se sont fait un paquet de blé sur les tripes des poilus. Voilà, je vous ai prévenu d'avance, hein, ça va pas être gai ce soir. On va se faire juste un petit récapitulatif historique, puisque parler en grande partie donc de cette Première Guerre mondiale tout au long de l'émission. Alors la Première Guerre, elle a commencé quand? Alors juste un petit peu d'histoire, un petit peu de didactisme pour commencer. Alors elle a commencé avec l'Autriche qui déclare la guerre à la Serbie après l'assassinat de Louis Ferdinand machin là, je sais plus trop quoi. Donc l'Autriche qui déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914 exactement. L'Allemagne qui déclare la guerre à la France le 3 août 14 et qui prend fin donc le 11 novembre 1918 à l'armistice. Ça, vous le savez, puisque c'était hier et c'est hier depuis 96 ans. Voilà. Alors, entre les deux, entre la déclaration de la guerre et l'armistice, signée... Entre les deux, quelques chiffres, hein, les amis, c'est 18,6 millions de morts, dont 9,7 militaires et 8,9 civils. Ceci étant dit, on va enchaîner avec un très bon morceau qui s'appelle Johnny s'en va en guerre, qui fait référence à un film qui s'appelle Johnny Got His Gun, mais ça, on en parlera plus tard, après le morceau. Je voulais juste vous faire la petite précision pour que vous l'ayez bien en tête pendant l'écoute de ce morceau des Sales Majestés. Johnny s'en va en guerre.
Johnny s'en va en guerre, Johnny est jeune et fier. Dans son bel uniforme, il se prend pour un homme. Johnny a belle allure, Johnny est jeune et pur. Johnny est volontaire pour aller en enfer. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore que la guerre lui réserve un sort pire que la mort. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore qu'en allant à la guerre, il ira en enfer. Il sera un héros servant la patrie. Johnny n'a pas compris qu'elle se moque de lui, que faisant son devoir, il vivra un cauchemar, et qu'on lui a menti que la guerre n'est qu'une boucherie. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore que la guerre lui réserve un sort pire que la mort. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore qu'en allant à la guerre, il ira en enfer. Johnny ne sent plus rien, Johnny n'entend plus rien. Non, Johnny n'est pas mort, mais c'est bien pire encore. Johnny souffle martyr, Johnny voudrait mourir, mais personne ne l'entend, perdu dans le néant. Johnny ne sent plus rien, Johnny n'entend plus rien. Non, Johnny n'est pas mort, mais c'est bien pire encore. Johnny souffle martyr, Johnny voudrait mourir, mais personne ne l'entend, perdu dans le néant. Johnny sait pas encore, sait pas encore, Johnny sait pas encore qu'en allant à la guerre il ira en enfer. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore que la guerre lui réserve un sort pire que la mort. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore qu'en allant à la guerre il ira en enfer. Qu'en allant à la guerre il ira en enfer.
Il ira en enfer. Ouais. Johnny s'en va en guerre. Pour ce qui est de revenir, c'est une autre histoire. Donc, Johnny s'en va en guerre, des Sales Majestés, issus de leur dernier album en date, qui date de 2013, qui s'appelle Sexe, Fric et Politique, sorti chez LSM. Alors, attends, chez DKP Productions plus LSM. LSM, les Sales Majestés. Donc, une co-autoprod. Le tout distribué par Musicast Distribution. Un sort pire que la mort. Alors, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer, les amis. En l'occurrence, c'est un film, hein, dont je vous ai parlé, tout à l'heure. Johnny Got His Gun, qui a inspiré. C'était un bouquin d'abord. C'est devenu un film après. Donc, le film et le roman ont inspiré très très fortement d'une part les Sales Majestés comme on vient de l'entendre et aussi très très fortement les Beru avec Johnny revient de la guerre et aussi les Ludwig avec Johnny Got His Gun. Donc là on peut pas faire plus appuyé au niveau de la référence. Alors la référence en tant que telle, eh ben le bouquin, comme je vous le disais, il est sorti 3 jours exactement après la déclaration de la deuxième guerre mondiale, pardon, c'est l'émotion, ma langue fourche. Donc en 1939, donc le bouquin Johnny Got His Gun, le film il a été adapté en 1971, donc en pleine période de la guerre du Vietnam, et le bouquin et le film sont tous les deux signés de Dalton, comme les frères Dalton, j'allais dire Donald, mais c'est un autre, une autre bande dessinée, c'est plutôt Walt Disney, ce qui n'a rien à voir, Dalton Trumbo, et non pas Jumbo, excusez-moi, hein, c'est vraiment pas drôle, mais je préfère à la limite qu'on déconne un peu, ça nous allégera un petit peu la lourdeur de cette émission, qui a été très très lourde aussi à préparer, je ne vous cache rien. Donc Dalton Trumbo, qui a signé aussi, alors la mise en scène de l'adaptation de son propre bouquin et qui a co-scénarisé le film avec Luis Buñuel, qui est donc une sacrée grande référence du cinéma tout court. Voilà. Alors un petit peu le pitch, si vous connaissez pas le film ou le bouquin, je vais vous pitcher un tout petit peu c'est comme ça qu'on dit, hein, le pitch. Pour présenter un film, hein. Donc je vais vous pitcher un petit peu l'histoire très très rapidement du film et du livre. Donc c'est Johnny qui s'en va en guerre, il dit au revoir à sa chérie et il part, là on est dans le sujet, on est dans le thème, il part dans les tranchées en Europe à partir des États-Unis et il revient des tranchées. Amputé des 4 membres, je vous avais prévenu, c'est très joyeux, amputé de la parole, de la vue, de l'ouïe et de l'odorat, mais il est toujours conscient. Il n'a plus possibilité de communiquer avec qui que ce soit, ni de sentir le monde extérieur, mais il est encore vivant, il est encore conscient. Alors les médecins militaires s'acharnent sur lui, pensant que c'est juste un bout de chair, qui n'est plus conscient du tout, qui est encore vivant, soit ça ils s'en rendent bien compte les médecins. Et il y a une infirmière qui est, comme tout ce qu'on pourrait attendre du personnel soignant, des infirmières et des toubibs, qui est donc porté plus sur l'humanisme et qui se rend compte que Johnny, effectivement, malgré que ça soit juste un homme devenu un homme tronc, sans pouvoir communiquer avec le monde extérieur, qu'il est encore conscient. Et on se rend compte au fur et à mesure du livre et du film que qu'il est conscient et que la seule chose qu'il veuille, c'est de mourir et de le laisser crever, qu'on l'euthanasie une bonne fois pour toutes. Donc le sujet est pas très très léger. Entre le bouquin donc qui est sorti 3 jours après le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale par les États-Unis, entre le film qui est sorti en 71 en pleine guerre du Vietnam, donc vous voyez quelle peut être la lourdeur de la signification antimilitariste de ces deux objets hautement culturel et j'allais, je ne sais pas comment dire, mais vous avez bien chopé mon point de vue et surtout le sujet du livre et du bouquin. Je voulais juste faire une petite parenthèse aussi. Je vous en ai parlé il y a pile poil un an. Quand les copains font quelque chose de bien, et ben la moindre des choses, c'est d'en parler. Je vous avais fait un petit clin d'œil il y a un an pile pendant le 4e épisode d'Abba l'armée, Abba la guerre. Un film qui a sorti un copain qui s'appelle Philippe Meyer. Ce film s'appelle Bleu Horizon. Vous pouvez le trouver sur internet aussi. C'est un film évidemment sur la guerre des tranchées. Il est moins lourd au niveau de la signification, parce que je crois pas qu'on puisse faire plus lourd qui est plus significatif que Johnny Got His Gun. Mais dans tous les cas, voilà. Allez, je vous recommande d'aller voir le film de ce très bon copain que j'embrasse au passage, Philippe Meyer, Bleu Horizon. C'était la couleur des uniformes des soldats. Des poilus pendant la guerre. C'est vrai qu'au début, ils étaient bleus et rouges, les pantalons rouges, tout ça, une autre référence cinématographique et littéraire à aller fouiller aussi un petit peu. Il y a plein de choses, évidemment Stanley Kubrick avec Les Sentiers de la Gloire, évidemment Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Donc voilà, tout ça je vous l'ai déjà dit l'année dernière, mais ça fait pas de mal de le rappeler un petit peu. Voilà, et ben là-dessus, on va passer au rat. C'est déjà un morceau que je vous ai déjà diffusé dans un épisode de Abba l'armée, Abba la guerre. Mais comme on est sur 14-18, et ben je m'interdis rien et c'était important de vous le remettre un petit peu dans les esgourdes, ce morceau des rats qui s'appelle La fleur au canon. Léon part pour le front, la fleur au canon. Ah, du coup, Johnny Got His Gun, ça m'a donné vachement envie de le revoir. Bon, voilà, les rats, on parlait avec le mat. Excusez-nous, Johnny... De toute façon, c'est du déféré, on peut faire un montage, mais jamais de montage. Quoique, des fois, quand même, quand j'oublie un morsif, on peut le faire. Alors, bon, les rats, revenons à nos moutons. Tiens, un magnifique morceau antimilitariste des rats aussi, c'est des moutons. Voilà, en ce qui nous intéresse, La fleur au canon des rats, issu du premier album des rats qui s'appelle Tequila, qui est sorti en 87 chez Gouniaf Mouvement et distribué par Madrigal. En ce qui concerne le vinyle et la réédition CD qui date de quelques années après, début 90 il me semble, chez Rats Productions, donc de l'autodistribution les rats, et distribué par Densteria. Alors, la fleur au canon, la fleur au fusil, tout ça, ça m'a évoqué, en préparant l'émission, l'union sacrée, entre des guillemets. Alors, l'union sacrée, j'avais entendu parler, vous avez certainement aussi entendu parler de ce terme-là. Je voulais y revenir pour en apprendre aussi en même temps que vous. Donc, l'union sacrée, c'est la grande réconciliation nationale lancée à la Chambre des députés le 4 août 1914, donc vraiment le lendemain de la déclaration de guerre par l'Allemagne. Donc, à la Chambre des députés, le 4 août 14, par Raymond Poincaré, qui était le grand président de la République de l'époque, et concept... L'union sacrée qui va réconcilier la droite la plus extrémiste, la plus nationaliste, la plus fasciste, hein, même si on n'appelait pas ça à l'époque encore, avec la gauche la plus socialiste. Ça a des consonances très très actuelles aussi. Donc une gauche qui était politique comme syndicale et qui s'est écrasée. On reviendra plus tard, après l'assassinat de Jaurès. Donc tout ça pour faire oublier le pacifisme des années précédentes et pour mieux partir en guerre, la fleur au fusil. Et ça, c'est véridique, puisqu'on peut trouver encore sur Internet et dans les bouquins et machin, dans les sources historiques, des images de défilés de poilus. Donc encore avec leurs uniformes bleus au-dessus et rouges en dessous, avec des fleurs dans les canons de fusil, et qui défilaient le long des Champs-Élysées et qui étaient tout contents de partir défendre la patrie, ou du moins ce qu'ils pensaient être la patrie, pour aller casser un peu du Bosch et en niquer par centaines de milliers. Voilà, et ben puisque je vous parlais de Jaurès, et ben c'est le titre du prochain morceau. Alors c'est une reprise, morceau de Jacques Brel à l'origine, repris par Zebda, et on va revenir un petit peu sur le, très très vite quand même, sur un petit peu le parcours de Jaurès, mais en attendant, voilà, pourquoi ont-ils tué Jaurès ? La question est posée, et c'est Zebda qui tâche d'y répondre avec les paroles de Brel.
À 15 ans, il finissait en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents? Entre l'absinthe et les grands-messes, ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps on laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître.
Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
On peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu, lorsque l'on part aussi vaincu. C'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux de quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur.
Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Au centre de quelques sabreurs qui exigeaient des lèvres, qu'ils aillent ouvrir aux champs d'horreur leurs 20 ans qu'ils n'avaient plus naître, et ils mourraient à pleine peur, tout miséreux, oui, non. maître, couvert de prêtres, oui notre monsieur. Demandez-vous belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Et ben voilà, la question a été posée par Brel à l'époque. L'époque, c'était 77, issu du dernier album de Brel, Les Marquises, et reprise donc, comme vous venez de l'entendre, par Zebda. Donc alors, Zebda, alors, issu du tribute à Brel, qui s'appelle Au Suivant, qui est sorti en 98 chez Barclay, qui est une très très bonne compile. Bon, comme tous les tributes, il y a des trucs achetés, il y a des trucs à garder, et je crois que Jaurès par Zebda, c'est un des morceaux les plus, si ce n'est le morceau le plus poignant de cette compilation en hommage donc à notre tonton Brel. Alors voilà, la question est posée, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi a-t-il tué Jaurès? Parce que il y a un assassin derrière. Et ben tout simplement pour en finir avec le pacifisme, mais pour pouvoir rentrer de plein pied dans cette putain de guerre. Donc Jaurès, Jean Jaurès, qui est né le 3 septembre 1859 à Castres, pardon, et qui est mort, assassiné, le 31 juillet 14 à Paris, dans un café de la rue Montmartre. Encore du sang versé à Montmartre, de la commune à Jaurès, ça fait quand même beaucoup de sang. Et le 31 juillet 14, et ben c'était trois jours avant la déclaration de guerre entre l'Allemagne et la France. Et ben Jaurès a été assassiné de deux coups de flingue, dont un en pleine tête. Jaurès est mort pratiquement sur le coup. Je ne sais pas s'il a eu beaucoup le temps de se rendre compte de ce qui lui est arrivé. Ses camarades de l'Humanité, puisque Jaurès a créé ce journal, si je ne m'abuse, qui étaient avec lui, ont bien vu le truc, l'ont allongé sur une table. Il est mort directement pendant que les autres camarades de Jaurès cavalaient après son assassin, son meurtrier, qui s'appelait Raoul Villain, voilà un nom un peu prédestiné. Assassinat qui précipitera 1, 2, 3, excusez-moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'émotion là, qui précipitera j'ai du mal, le pépère aujourd'hui. Donc qui précipitera, j'y arriverai, l'union sacrée par le ralliement des socialistes réformistes, dont la SFIO, qu'avait d'ailleurs créé Jaurès, et ainsi que la CGT, qui c'est les deux parties donc politiques et syndicales qui ont trahi la cause, on peut dire ça comme ça, du pacifisme et de l'antimilitarisme pour pouvoir par l'union sacrée partir enfin à la guerre dans la joie et la bonne humeur. Raoul Villain, c'était un jeune nationaliste déséquilibré, d'ailleurs comme tous les nationalistes, hein, un jeune fasciste, on pourrait dire ça, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'appelait pas encore ça on définissait pas ça par le fascisme à l'époque, ça viendra plus tard. Raoul Villain, d'ailleurs, qui sera arrêté le soir même, qui se rendra à la police, très très fier de son acte, pour en finir justement avec l'idée de pacifisme pour tuer une idée, des fois, et même souvent dans l'histoire du XXe siècle, il suffit d'assassiner l'homme, l'humain qui la représente. Jaurès n'a pas été le premier, il ne sera pas le dernier non plus. Pendant l'histoire de ce XXe siècle très sanglant, et certainement pas pendant non plus le XXIe siècle qui commence. Tout ça pour dire que Raoul Villain sera donc acquitté du meurtre de Jean Jaurès le 29 mars 1919, donc 6-8 mois, quelques mois après l'armistice de 18. Et il sera donc acquitté et la veuve de Jean Jaurès, elle, sera condamnée aux dépens, c'est-à-dire qu'elle sera condamnée à payer les frais de justice inhérents à ce procès. Comme quoi, alors les juges étaient très 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 impartiaux, hein, comme tous les juges, bien sûr. Il y a une très très forte, un très fort esprit, une très forte propagande virulemment nationaliste et patriotique autour de ce procès. Et comme quoi il y a une justice, mais pas finalement la justice qu'attend la patrie et la nation. Raoul Villain sera exécuté à Ibiza le 17 juillet 1936 par des républicains anarchistes pendant la guerre civile d'Espagne. Voilà qui en emmènera une autre derrière et qui a été mondiale aussi. Ouf, voilà, et ben on va rester dans le lourdingue, les amis, dans le pagaie du tout. Et on va passer de Jaurès à la Butte Rouge. La Butte Rouge par le Tactique Collectif. On reste un petit peu dans Zebda, c'est pour ça.
La Butte Rouge, c'est son nom. Le baptême suit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes. Il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de bon muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qui est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu des larmes cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ce sont des tyrans. La Butte Rouge c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui à des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient tant de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents.
La Butte Rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Mais moi j'y vois des croix portant le nom des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges. On y entend des cris et des chansons. Filles et gars doucement y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers, j'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La Butte Rouge, c'est son nom, baptême suite un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains.
Eh ouais, les larmes des copains. Et parce que ce sont des tyrans, il n'y a pas d'autre mot. Et... C'est... Ouh, eh ben dis donc, la butte rouge, donc, par le tactique collectif, avec les camarades de Zebda derrière, comme vous l'avez reconnu, issu de l'album Motivé, qui est sorti en 96, ça ne nous rajeunit pas, 96 déjà, chez Tactique Collectif et chez la LCR. L'original est signé Monteus au texte, Monteus qui était un très grand parolier, très grand auteur, pacifiste, anti-belliciste, comme le dit Renaud, parce que Renaud l'a reprise aussi cette chanson dans l'album Live, Le Petit Bal du Samedi Soir, et Monteus qui est tombé sous le coup aussi de l'Union Sacrée et qui est devenu un très très fort partisan de la guerre patriotique. Voilà, et en ce qui concerne le compositeur de la Butte Rouge, c'est Georges Crière. Et la chanson, pour tout vous dire, eh ben elle date de 1923. Un malentendu malheureux s'est créé autour de la Butte Rouge. D'aucuns prétendraient que la chanson fait référence aussi à la Commune de Paris. Non. Elle fait bel et bien référence à la Butte Rouge, à la butte de Bapaume, qui se trouve à Berzieux, dans la Marne, et qui, à l'époque, était en plein front de Champagne pendant la bataille de la Somme. Bataille de la Somme qui s'est déroulée du 1er juillet au 18 novembre 1916 et pour marquer le coup aussi. La bataille de la Somme qui a été une des batailles les plus sanglantes de cette grande boucherie et qui le décompte macabre. C'est 203 000 soldats français, 420 000 soldats britanniques et 437 000 soldats allemands. Voilà, une magnifique preuve de patriotisme. On va enchaîner, les amis, avec une chanson qui n'est pas plus gaie, qui n'est pas moins triste aussi, qui est très très fortement symbolique de la guerre de 14-18. Évidemment, impossible de passer à côté de la chanson de Craon. J'aurais bien aimé, mais bon, il y a la version des Amis de ta femme, on l'a déjà entendu maintes et maintes fois dans Émission Censurée. Il y a une version que je vous ai jamais diffusée, vous la connaissez peut-être, vous la connaissez certainement pas. Dans tous les cas, on va se la partager, cette magnifique version de cette magnifique chanson de Craon. C'est la compagnie Joli Môme qui s'y colle et c'est comme ça que ça commence.
Au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Payez-la de votre peau. Eh ben ouais, et un petit air d'accordéon sur l'international. Magnifique chanson, totalement galvaudée maintenant par les socialistes. Par les socialistes réformistes, les socialistes au gouvernement et à l'Élysée en ce moment. Mais qui reste quand même une des plus belles chansons antimilitaristes qui soit. Il y a un couplet que je ne vous citerai pas. Allez le voir sur Internet. Je vais quand même pas vous mâcher tout le boulot non plus. Donc, la compagnie Joli Môme qui a repris la chanson de Craon dans l'album Rouge Horizon, sorti en 99, de manière totalement autoproduite, totalement autodistribuée aussi. La chanson de Craon, bon, c'est pas la première fois que je vous la diffuse dans Émission Censurée et dans À bas l'armée, à bas la guerre. Donc est-ce que je vais vous refaire un petit laïus sur la chanson de Craon? Bon, j'ai renoté quelques petites choses parce que c'est quand même important de les repréciser à chaque fois. La chanson date de 1917 ou daterait de 1917, auteur totalement anonyme. Le compositeur, on le connaît puisque la chanson de Craon a été écrite sur l'air de Bonsoir Mamour, qui a été écrite une chanson de variété de l'époque composée par Charles Sablon, qui était le papa de Jean Sablon, qui était un grand chanteur crooner dans les années 30-40, et même au-delà, me semble-t-il. Donc, cette chanson est toujours interdite dans l'armée française. Elle a été très virulemment, comme vous pouvez l'imaginer, censurée à l'époque. Et puis, ça rigolait pas à l'époque. Pétain, qui était un grand fan de la chanson de Craon, puisqu'il a fait exécuter quiconque de poilu la chantait, cette chanson. Puisqu'elle nuisait forcément au moral des troupes. Pétain, hein, vous savez, le grand vainqueur de la guerre de 14-18, le grand sauveur de la France, qui a été nommé le 17 mai 1917 au poste de général en chef des armées françaises en remplacement de Nivelle et de sa tactique meurtrièrement efficace, hein, qui consistait à grignoter les Boches mètre par mètre, de tranchée à tranchée, ce qui a donné donc plusieurs massacres innommable. Et Pétain, pour sauver le moral des troupes et la grande gloire de l'armée française, qui a fait donc exécuter quiconque contestait un petit peu son autorité et quiconque contestait l'autorité de quelque gradé que ce soit, parce que c'est inimaginable ce que voilà, on s'écoute des petites chansons, des chansons qui sont quand même très très fortes, très très puissantes au niveau de ce qu'elles évoquent, de ce qu'elles nous rappellent. Mais essayer de s'imaginer, de faire un peu, un tant soit peu d'empathie pour se rendre compte ce que pouvaient vivre les hommes au front. On est très très loin de pouvoir de pouvoir s'imaginer mais un millième, un dix millionième, tout ce que vous voulez, de ce qu'ont pu subir, vivre ces poilus qui étaient de toute façon condamnés à mort dans les tranchées, puisqu'il n'y avait aucune solution de pouvoir éviter les tranchées, même par la démobilisation immédiate qui était d'ailleurs promise par Pétain, à qui dénoncerait l'auteur de la chanson de Craon. Et pour vous dire aussi la solidarité qu'il pouvait y avoir parmi les poilus, les poilus français. Et puis il y a un autre film aussi, ça m'évoque aussi un autre film qui s'appelle Joyeux Noël, qui parle aussi de la fraternisation des soldats britanniques, français et allemands pendant le premier hiver de la guerre, hein, l'hiver Noël, en l'occurrence Noël 1914. Donc voilà, c'est la première fois que je suis tombé sur la chanson de Craon, c'était dans Là-bas si j'y suis, dans l'émission de Daniel Mermet. C'est une chanson que je connaissais absolument pas. J'ai terminé en pleurs à la fin de cette émission. Je me suis dit, ça, il faut le reprendre. Et je la chante toujours sur scène dès qu'on me la demande. Alors n'hésitez pas à me la demander, parce qu'elle est pas facile à balancer en concert. Mais ça fait toujours du bien de se remettre les idées en place avec la chanson de Craon. Voilà. Alors, eh ben, on va maintenant passer à une autre magnifique chanson. Une chanson de Renaud, qui est, si vous voulez mon avis, j'espère que vous le partagez. Il y a beaucoup de chansons de Renaud qui sont magnifiques. Et celle-là, elle est vraiment particulièrement. Chaque fois que j'entends, pareil, la larme un petit peu au bord des yeux, le menton qui vibre et les frissons tout partout. Cette chanson la plus magnifique de Renaud, à mon avis, eh ben, elle s'appelle La Médaille et on va l'écouter tout de suite. Ouvache-toi.
Un pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France, et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense. Maréchaux assassins, sur vos bustes d'airain, vos poitrines superbes, vos médailles ne sont que fientes de pigeons de la merde. Un enfant est venu au pied de la statue du maréchal de France. Une envie naturelle l'a fait pisser contre elle, mais en toute innocence. Maréchaux assassin, le môme, mine de rien, a joliment vengé. Les enfants et les mères que dans vos sales guerres vous avez massacrés. Un clodo s'est couché une nuit juste au pied du maréchal de France. Ivre mort au matin, il a vomi son vin dans une gerbe immense. Maréchaux assassin, vous ne méritez rien de mieux pour vos méfaits que cet hommage immonde pour tout le sang du monde par vos sabres versés. Un couple d'amoureux s'embrasse sous les yeux du maréchal de France. Muet comme un vieux bonze, il restera de bronze, raide comme une lance. Maréchaux assassin, l'amour ne vous dit rien, à part bien sûr celui de la patrie, hélas, cette idée dégueulasse qu'à mon tour je conchis.
Eh ben, qu'à ton tour et qu'à notre tour aussi, on conchit. La Médaille de Renaud, issue de l'album À la Belle de Mai, qui est sorti en 94 chez Ceci Cela plus Virgin, distribué par Virgin France. Voilà, hein, magnifique texte, magnifique chanson, des frissons tout partout. Voilà, je crois qu'on pouvait pas mieux résumer non plus le mépris des élites, le mépris des gradés qui ont condamné, comme je vous l'évoquais un petit peu tout à l'heure, avant la médaille, le casse-pipe. C'était le terme qui était utilisé à l'époque. Les soldats, les poilus étaient condamnés au casse-pipe et ils avaient aucune échappatoire, même en étant blessés, même en s'auto-mutilant, parce qu'il y a beaucoup qui ont tenté l'expérience. Ils étaient considérés comme déserteurs, comme lâches, comme traîtres. Et ils étaient également exécutés. Le nombre de soldats exécutés à l'époque, on le saura jamais. Peut-être qu'on le saura un jour, parce que les élites et les gradés se sont signés une amnistie d'une centaine d'années. Donc peut-être que maintenant qu'on fête le centième anniversaire de cette immondice, on va pouvoir peut-être en apprendre de vertes et de pas mûres et des immondes et des dégueulasses. Voilà, quand on sait le nombre de soldats, de poilus qu'ils ont envoyés, ces élites et ces gradés, qu'ils ont envoyés au front pour y crever sous les bombes, sous les balles, sous les baïonnettes et sous les gaz, et le nombre de réfractaires qu'ils ont pu faire exécuter, on se dit, avec un minimum de recul, qu'à la place, ce sont eux, les grands généraux, qui auraient dû être jugés pour crimes contre l'humanité. Voilà, on va passer maintenant à un morceau un petit peu plus engatzé, comme on dit à Marseille, qui boulègue un peu plus, qui est aussi très très fort, qui élargit. On va passer de la guerre de 14-18 à toutes les autres, les précédentes, comme les suivantes et comme les actuelles, avec les Tétrèdes. Et le morceau s'appelle Moderato.
Pourquoi la guerre existe? Pourquoi est-ce qu'on insiste? À l'ombre des fascistes, et il faudra qu'on résiste. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi t'es sur tes gardes? Si t'avais pas compris, on est des grains de riz. Et l'on ira à danser, c'est pas trop tôt, jusqu'à nous en brûler la peau. Moderato. La ville a peur, pourquoi c'est jamais l'heure? Les fusils d'une fleur, ça nous porte le cœur. Pourquoi tu recommences toujours la même danse? Et si t'avais pas compris, on est des grains de riz. Dans l'hiver de cet été, nos rêves effrayés s'en seront-ils allés? J'ai pas la certitude, mais en toute exactitude, un jour je te le dis, on sera des grains de riz. Jusqu'à nous en brûler la peau. Et l'on ira à danser, c'est pas trop tôt. Jusqu'à nous en brûler la peau. Et l'on ira à danser, c'est pas trop tôt. Jusqu'à nous en brûler la peau. Moderato. We'll be right back.
Voilà, c'était donc un tout nouveau morceau des Tetraed, issu donc de leur tout dernier album sorti cette année. L'album s'appelle Les Terriens. Le morceau, j'espère qu'il vous a bien plu, s'appelle Moderato. Et l'album est sorti, comme d'habitude, pour les derniers albums des Tetraed. Ou deux Tetraed, puisqu'on dit Tetraed, pas les devant. Et voilà, hein, c'est les Tetraed qui veulent ça comme ça, alors moi je respecte. Chez Jamais Je Dégueule, ça c'est le nom du label Tetraedien, et le distributeur, c'est donc Vagram. Alors bah voilà, hein, on a fait un bon petit tour en chanson de la première grande boucherie. Il y en a eu d'autres, hein, qui ont suivi. La deuxième, la troisième, bah oui, puisque je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais au risque de me répéter, je vous le redis quand même. La troisième guerre mondiale, une guerre qui n'a pas dit son nom, mais qu'on a quand même appelée la froide. Et puis la quatrième, qui a déjà commencé depuis un petit moment, depuis disons la fin de la troisième, hein, qu'on peut mettre à 89, fin 89, 90. Donc la quatrième guerre mondiale, qui a commencé en 90 avec des magnifiques avions en 2001 qui se sont écrasés sur des tours, machin. On a vu ça jusqu'à en dégueuler. Et depuis l'époque, ça a quand même bien changé. Donc une guerre insidieuse, cette quatrième guerre mondiale, une guerre larvée, une guerre généralisée et qui utilise la religion comme prétexte fallacieux. Voilà. En ce qui concerne les guerres d'aujourd'hui, je suis allé vérifier un petit peu sur internet. C'est la joie aussi, hein, dans les foyers. La guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, la guerre du Nord-Ouest du Pakistan, la guerre du Mali, la guerre du Nigeria, la guerre contre l'État islamique, la guerre civile syrienne, la guerre civile libyenne. La guerre civile sud-soudanaise, la guerre du Saada au Yémen, la guerre du Donbass en Ukraine, et j'en oublie certainement des biens gratinés. Et on va se quitter, les amis, avec un morceau de Charge 69 qui s'appelle En Lambeau et qui, moi, j'avais envie de vous passer ce morceau-là parce que il évoque l'idée du stress post-traumatique, comme on dit dans le jargon médicamenteux, psychiatrique et médical. Vous savez, cette angoisse que ressentent tous les soldats, sans exception, et de toutes les époques, quand ils reviennent de la guerre. Parce que c'est pas normal ou naturel de tuer un autre être humain. Alors le stress post-traumatique en 1918, quand les gueules cassées sont revenues du front, je vous dis pas, j'ose même pas imaginer, j'ai vu des images là-dessus, c'est vraiment très très impressionnant. On commence à redécouvrir au fur et à mesure des choses. Et malgré tout ce qu'on pourra prétendre, et ce que pourront prétendre toutes les enflures qui tirent de la guerre un avantage économique, financier, industriel et politique, non, la guerre, c'est pas quelque chose de normal et de naturel. La guerre, c'est une infamie. Vive la désertion et vive Charge 69 avec En Lambeau, un extrait de leur dernier album en date qui date de 2011 et qui s'appelle Résistance électrique. En Lambeau!
Survivre jusqu'à demain déjà.
Massacre,
Et ben voilà les amanches, une heure douloureuse qui se termine. C'était une émission qui n'était pas facile à préparer, qui n'était pas facile à animer, qui n'était pas facile non plus à mettre en place techniquement parlant. Bravo mon Matt. C'était pas une émission, j'imagine, non plus très difficile à écouter, je veux dire, hein, qui était difficile à écouter. Mais bon, voilà, des fois, il faut passer par là. Et dans tous les cas, c'est important qu'on puisse se remettre tout ça en mémoire et partager aussi le bonheur et le malheur. Voilà, et la semaine prochaine, je vous garantis pas que ça va être plus gai, puisqu'on... On va s'intéresser, une fois n'est pas coutume, et il est grandement de temps de s'y coller dans l'émission censurée, sur cette putain de guerre contre la Palestine et Gaza, tout le merdier. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Merci d'avoir esgourdé l'émission censurée. C'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal, et c'est rien de le dire, c'était le Matt à la technique. Merci mon poteau. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour de nouvelles aventures alternatives et bellicistes, malheureusement, même jour, même heure, à savoir mercredi de 18 à 19h pour l'apéro, juste après pour Pergol avec Sylvain Asselot, émission censurée, rediffusée le dimanche de 21 à 22h. Pour le Dijon, vous pouvez podcaster toutes les émissions caribéennes, dont émissions censurées, sur le www.rcn-radio.org. L'intégrale d'émissions censurées de la Prums à la 211e dans quelques jours. C'est toujours www.davidvincentetsmutants.com. Restez à l'écoute d'RCN pendant toute la soirée. British Base, Intercours, L'Entre-Gotard, Fréquence Limite, Intramuros. Et aujourd'hui, plus que jamais, mais bien moins que demain, vive la résistance, vivement la grève générale et la révolution mondiale. Vive la désertion permanente. Merci. Bonsoir.